va faire une observation générale de sociologue du travail là, ou de sociologie du travail sur les services. Parce que j'ai quand même l'impression, c'est une vieille impression, mais je voudrais vous la faire partager, qu'en France et qu'au Québec, parce que ce n'est pas du tout comme ça dans le monde anglo-saxon, les services sont très étudiés, et je dirais trop étudiés, du point de vue de la relation de service. Les services, dans la littérature française, sont souvent ramenés à la seule relation de service. Alors qu'il y a bien d'autres choses. Il y a d'abord le back-office. Alors le back-office, en général, totalement oublié dans les services. Mais dans ou autour, ou à côté de la relation de service, il y a autre chose. Il y a ce que je pourrais appeler l'épaisseur de service. Ou l'épaisseur des services. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la relation. Quand une infirmière, ou plutôt une aide-soignante, fait le lit d'un patient, c'est pas une relation de service. Ça peut être une relation de service si elle demande à la patiente « Est-ce que vous voulez les draps en haut, au milieu, etc. ?» Là, une relation de service. Mais faire le lit, c'est pas une relation de service. Or, la plupart du temps, dans la littérature, on fait rentrer ça dans la relation de service. Pourquoi j'étais en retard tout à l'heure? Parce qu'il y avait un embouteillage dans le bus. Enfin, il y avait un embouteillage devant le bus. Je demande à descendre du bus. Donc, l'interaction n'est pas forcément facile, puisque je veux descendre et que le chauffeur ne veut pas me faire descendre. Mais au bout d'un moment, je dis, pourquoi vous avez ouvert tout à l'heure? Il va aller descendre tout à l'heure, maintenant c'est fini. Mais pourquoi c'est fini? Eh bien parce que je n'ai droit qu'à ouvrir la porte en dehors des stations de bus que 5 fois dans ma journée. Ça fait déjà 2, donc je ne peux pas la réouvrir pour vous. Ça, ce n'est pas une relation de service. C'est le service lui-même qui est réglementé. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de se concentrer sur la relation de service, on est tombé un peu dans un piège qui nous est tendu, en France en particulier, et un peu au Québec, par une lecture, un peu biaisée de l'interactionnisme tel qu'il est diffusé dans notre pays. Et je vous renvoie, pour avoir une lecture un peu plus large de l'interactionnisme, au dernier bouquin de Goffman, repris par Castel, qui dit... Clairement, on ne peut pas appliquer à des institutions ouvertes ce que j'ai travaillé dans une institution totale. Or, la plupart du temps, la relation de service est quand même travaillée chez nous autour de la relation mise en avant par Goffman. Voilà. Donc, j'insiste là-dessus parce que en sociologie du travail, si on s'en tient à la relation de service, on ne voit pas l'épaisseur organisationnelle et aussi les relations entre les salariés autour du service ou dans le service, et la relation de service à ce moment-là, ce n'est qu'une dimension non négligeable. Mais il ne faut pas quand même que l'arbre cache la forêt. Et voilà un petit peu ce que je voulais dire à ce propos-là. Alors, sur les papiers, bon, je vous encourage à aller lire les papiers, tout simplement parce qu'ils sont tellement denses que vous avez vu que nos collègues avaient du mal à en donner l'essentiel. Voilà, bon, donc ça, c'est, j'ai eu la chance de les lire. Et donc, je ne pourrais... Je ne poserai que quelques questions. Globalement, depuis 2 jours, alors je commencerai par le papier d'Angelo Soares, même si c'est lui qui a terminé. Depuis 2 jours, je remarque, mais ce n'est pas original parce que c'est toujours comme ça, c'est dans l'intersectionnalité, on a tendance, ce n'est pas ce qu'a fait Angelo, on a tendance quand même à ramener tout à des questions de genre, de race, d'ethnie et de classe. L'âge, on en parle très peu. Moi qui suis déjà d'un âge avancé, je peux vous dire que quand on me refuse un restaurant, on me refuse une table de restaurant, bah, j'estime que ça en fait partie. Hein. On en parle pas beaucoup. Et il y a seulement, je n'ai pas retrouvé l'auteur hier, qui a parlé aussi du handicap et des orientations sexuelles. Je pense que c'est important de parler de tout ça. Voilà. Alors, maintenant... Le débat est trop souvent aussi sur, les rapports entre les 3 grands ensembles, peut-être 4, genre, race, ethnie, classe. Or, c'est quand même extraordinaire qu'on ait déplacé le problème autour de cette question. Je reviendrai sur la hiérarchisation. Mais la question essentielle, ce n'est pas le rapport entre ces 3 ou 4 dimensions, c'est la question des rapports d'oppression à l'intérieur de chacune des dimensions. Or, on est trop souvent en train de un peu coincé sur un débat qui qui à mon avis n'a pas beaucoup de sens, et dont d'ailleurs le concept de consubstantialité nous sort d'une certaine manière, c'est une intersectionnalité aussi, mais peut-être moins en profondeur, de manière à ne pas traiter cette fausse question, en fin de compte. Mais je reviendrai tout à l'heure. Je poserai une question quand même à Angelo, parce qu'il y a une phrase qui m'a laissé un peu quoi. La performativité, enfin, je veux dire, comment travailler, puisqu'il parle de ça, comment travailler la performativité consubstantielle des rapports sociaux. Alors ça, c'est un programme. Tu peux nous donner quelques lignes sur ce point-là. Alors justement, sur la hiérarchisation des entités, je ne sais pas si on se tutoie, enfin, tu écris quelque part, il ne faut pas les hiérarchiser. Alors ça, c'est évidemment, c'est partie du débat, même si j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas le débat essentiel. C'est quand même un débat. Alors, évidemment, les marxistes vont hiérarchiser, on va mettre les classes d'abord, les féministes, les malins, bon, etc. Et on va où avec ça? Nulle part. Parce que l'essentiel, c'est pas ça, c'est de savoir de quoi on parle, à quel moment on parle. Donc, à un moment donné, ça sera peut-être les classes qui domineront, notamment ça sera le genre, notamment ça sera l'âge, et tout dépend de l'objet traité. Alors je trouve qu'on devrait cesser de se quereller sur des trucs qui n'ont pas d'intérêt, alors que bien souvent, on définit mal les objets, ou les objets sont un peu élastiques, ce qui fait qu'on mélange un peu tout, alors que si les objets sont bien circonscrits dès le départ, on aura évidemment une domination d'un type de rapport à un moment donné ou à l'autre, etc. Voilà, donc moi j'appelle à un peu plus de rigueur dans nos débats, ce qui éviterait d'avoir des faux débats. Alors, sur les deux autres papiers, sur les mouvements sociaux, revendiquant les 15 dollars par heure. Alors ça c'est amusant, bon, là il y a une blague à faire évidemment. Vous avez tous appris le 5 dollars a day, FDD, pendant 20 ans, et aujourd'hui on a le FFF. Voilà, le 3F, bon, on a quand même évolué. Mais ce n'est pas inintéressant de le regarder par là, parce que le FDD, c'est un patron, un employeur qui le décide. Aujourd'hui, le 3F, pour aller vite, hein, Fight for 15 dollars, c'est les salariés qui se battent. Donc on a quand même un changement important. Voilà, alors sur les maisons de retraite, je l'ai dit hier à une collègue, franchement, pour ceux qui ne connaissent pas bien le droit du travail américain. Parce qu'en France, on ne connaît à peu près rien au droit américain, au droit du travail américain. C'est dommage. Il y a, en 4 pages, vous avez tout sur le droit du travail américain. Bon, ça vaut le coup d'y aller. Dont un encadré qui est vraiment mais pédagogique, qui est bien fait et qui nous dit tout. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'on a l'impression que c'est comme chez nous. Enfin bon, c'est un peu différent parce que c'est les Américains. Mais non, c'est radicalement différent. Et les luttes ne peuvent pas s'organiser de la même manière. Donc ça, c'est très, très, très bien fait. Voilà. Alors, donc on a plein de... Alors, je voudrais savoir si... Une question de traduction, mais ça, c'est pour les deux auteurs, enfin les trois auteurs. Conseiller syndical, est-ce que ça veut dire organizers en anglais? Est-ce que vous avez pensé que c'était la même chose? Parce que là, si c'était la même chose, ça m'arrangerait, parce que j'aurais mieux compris les deux papiers. Si c'est pas la même chose, je voudrais bien avoir la différence. Bon, c'est pas la même chose. Bon, alors vous nous direz pourquoi. Sur la conduite de la grève, bon, tout ça, c'est très, très bien fait. Alors, à propos de l'intersectionnalité, c'est assez amusant. Parce que dans vos études, dans vos travaux de terrain sur les maisons de retraite, j'ai trouvé que vous n'avez pas assez développé, ça peut vous paraître bizarre de ma part, mais vous n'avez pas assez développé les rapports entre, en fin de compte, les conseillers, vous le dites, mais il faudrait peut-être aller plus loin, les conseillers syndicaux qui sont plutôt blancs et hommes, pas toujours, mais ça arrive souvent, hein, et puis évidemment les grévistes qui sont noirs et femmes. Enfin, je schématise, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Et je trouve que, du point de vue du terrain, enfin, du point de vue donc, du micro, là, vraiment le quotidien, on aurait bien aimé en savoir plus sur les frottements entre ces différentes catégories, donc qui se croisent et qui nous mènent à la consubstantialité, bien sûr. Et en revanche, donc voilà un peu ma question, parce qu'en revanche, vous concluez, et là vous êtes quand même un peu dur, parce qu'évidemment, qui a négocié? Les cadres blancs. Et qui, Rouspète, n'est pas content parce que la grève s'arrête? Les salariés noirs. Bon, je trouve que là, vous avez été un peu radical, de mon point de vue. Parce que quand on mène des... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà mené des négociations avec des patrons, mais franchement, et que vous avez la base derrière, mais la base derrière, elle est bien gentille, la base derrière, mais il y a la moitié qui veut s'arrêter, l'autre moitié qui veut continuer. Hein, il y a un syndicaliste dans la salle là, qui sera aussi bien que moi. Et c'est un vrai débat. Et comment vous faites? Comment vous sortez de là? La moitié qui veut continuer, l'autre moitié qui veut s'arrêter. Et bien, à un moment, il faut, dans une position d'équilibre, arrêter, expliquer pourquoi on arrête. Parce qu'aller jusqu'au bout, c'est l'essoufflement. Et s'arrêter, c'est aussi se faire gueuler parce qu'on n'a rien obtenu. Enfin, on n'a pas obtenu assez. Donc ça, je trouve que vous avez été un peu radical dans votre interprétation entre les cadres blancs et les populations haïtiennes. Voilà. Alors, il me reste 3 minutes, à peu près 4. 5. Oh. Donc, terminons par le papier de Mathieu. Alors, on peut faire une lecture un peu particulière du papier de Mathieu, qui vous a présenté. Bon, c'est le plus gros, donc c'est lui qui a estropié le plus son papier. Mais bon, c'est comme ça. Je vais lui poser une question un peu bizarre. Mais je me suis demandé, à un moment donné, si justement l'organisation de ces luttes, telles que tu les as décrites, ne conduisent pas à parler de ce que je vais appeler une intersectionnalité retournée ou une intersectionnalité inversée. Je veux dire quoi par là? Je veux dire justement ce dont je parlais au tout début, c'est que les universitaires ont tendance à découper justement ces questions de race, genre, etc. en rondelles, alors que ce que montre ce papier, c'est que justement, c'est grâce à l'intersectionnalité militante, on peut l'appeler comme ça, ce que j'appelais inversé, c'est inversé par rapport au monde académique. Inversé par rapport au monde académique, qu'on a justement une lutte. C'est-à-dire que les Noirs, les Latinos, les Blancs convergent en dehors de ces questions d'ethnie ou de race, de ces questions de genre, vers des luttes communes. Alors c'est pour ça que je parle d'une inversion de l'intersectionnalité, parce que justement, c'est le contraire de ce qu'on entend en général. Avec une capacité à coordonner le mécontentement et à faire valoir, alors même si ce n'est pas la grande victoire et le grand soir, à obtenir des augmentations de salaire pour un certain nombre de personnes, qui sont non négligeables, quand on passe de 10 à 12 dollars de l'heure, c'est déjà une victoire non négligeable. Alors une autre vision, à la fin de ton exposé, sur les mouvements radicaux noirs de jeunes, moi je me demande... Si justement, il faut quand même que je dise que je connais assez bien les États-Unis et la question noire aux États-Unis, puisqu'on a fait un film avec Joyce, enfin deux, il y en a un autre qui est en cours. Donc on connaît assez bien le problème, et c'est vraiment très compliqué d'y voir clair et de s'y retrouver dans les différents moments. Et quand même, ces militants durs qui veulent, tu l'as dit, reconstruire le mouvement de libération noire, est-ce que ce n'est pas une régression du point de vue de l'intersectionnalité? Une régression dans les luttes, je veux dire. Hein, une régression dans les luttes. C'est-à-dire que, à la limite, bon, il y a les femmes, mais il y a d'abord et uniquement la question de race. Alors, il faut dire aussi qu'on est aux États-Unis, hein, j'insiste là-dessus. Aux États-Unis, on parle de race. Ce n'est pas sûr qu'on puisse parler toujours de race chez nous, c'est une autre question. Voilà, donc je me demande s'il n'y a pas une régression de l'intersectionnalité, si je puis dire, dans ces luttes. Et pour conclure, l'intérêt du papier et l'intérêt de l'objet, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, les luttes à Walmart et des luttes pour les $15 par heure, c'est quand même cette vision anticapitaliste de toutes les luttes, enfin, la convergence des luttes sur l'anticapitalisme. Et ça, c'est quand même, et c'est un peu la même chose, mais en moindre, enfin, je veux dire, c'est aussi exacerbé dans vos maisons de retraite, parce que c'est le patron, c'est de demander des avantages en salaire, alors que là, on voit dans Walmart et dans la grande distribution, et dans le McDo, enfin les fast-food, qu'il y a une intersectionnalité des luttes, plutôt, et ça tu le dis, et je crois que c'est important, parce que ça me paraît nouveau comme formulation. Donc une intersectionnalité des luttes plutôt qu'une intersectionnalité de l'identité. Et ça, c'est un point important. Ça veut dire que peut-être qu'on est sorti de 30 ou 40 ans de luttes un peu bizarres où chacun était dans son coin et chacun luttait sur des objectifs limités et qui ne convergeaient pas. Là, on a une convergence. Alors pour terminer, la question deviendrait, tu en as un petit peu parlé, mais les tensions et les contradictions dans justement ces mouvements, forcément. Plus il y a l'intersectionnalité, plus il y a de tension. Mais pas seulement à l'intérieur de chacun des ensembles, comme j'ai dit, mais entre les ensembles. Et donc, tu as parlé d'intersectionnalité de marché, qui aurait en fin de compte les travers du syndicalisme d'affaires. Donc c'est un peu pessimiste comme conclusion là, que tu nous amènes, à savoir que l'intersectionnalité de marché, donc tu nous diras ce que c'est, va rejoindre le syndicalisme d'affaires qui, quelque part, a coulé le syndicalisme américain, comme chacun sait. Voilà, merci.
Merci Jean-Pierre. Je vais donner la parole déjà aux collègues pour qu'ils répondent aux premières questions. Donc,
Merci pour la question. Ça me permet de... des choses que je n'avais pas dit, mais que j'ai écrit. Je suis tout à fait d'accord qu'on met beaucoup d'emphase sur la relation de service. Mais il y a une très bonne raison pour ça. C'est que déjà en 1945, William White, il a écrit dans un livre qui disait que quand les clients prennent une place très importante, ça change complètement tous les modèles de l'industrie et aussi la manière dont on voyait les travaux industriels. Donc, il dit que les clients ont une place très, très, très importante. Et c'est important aussi parce qu'il y a des normes organisationnelles qui sont créées par rapport à des exigences des clients ou par rapport même à des choses que la gestion pense, imagine que les clients veulent. Donc, il y a une... les clients là-dedans, il est très important aussi parce que c'est un être humain avec une autre des subjectivités. Donc, dans cette co-construction du service, c'est extrêmement important. Je ne peux pas prendre la personne âgée que je dois donner un bain, jeter dans les bains, mettre de l'eau parce que j'ai 45 minutes pour donner un bain. C'est un être humain, ça. Je ne peux pas le faire. Donc, ça va avoir, les 45 minutes, ça va être très, très, très différent d'une personne à l'autre. Donc, ça, c'est une... Bon, pour la performativité, que je n'ai pas eu le temps, eh bien, Candace West, en 87, elle va parler à propos de « doing gender ». Et Judith Butler, elle va parler des performativité, donc comme étant ces processus dynamiques de construction sociale de la différence des sexes qui va produire la catégorisation masculin-féminin. Mais moi, je veux dire, ce n'est pas juste les genres. Il y a aussi la classe. Il y a aussi la race. Donc, la performativité, elle peut exister pour tous ces rapports sociaux. Je vous donne un exemple simple. Je peux arriver ici avec ma sacoche Louis Vuitton. Je suis en train de faire le genre, mais je suis aussi en train de faire la classe, parce que la sacoche coûte 5000 pièces. Vous comprenez? Donc, il y a une performativité qui va me donner un certain statut social ou que je vais utiliser un certain âge, dépendamment du maquillage que je suis en train. Donc, tous ces rapports sociaux, ils vont être aussi, d'une certaine manière, performés. Voilà, c'était un peu ce que j'ai essayé de dire, que cette performativité devrait aussi prendre en considération la consubstantialité des rapports sociaux, parce qu'on est en train de construire différents types de rapports, pas juste le genre. Voilà.
On est deux, mais en tout cas, je vais faire une moitié de réponse. Mais en tout cas, rapidement, c'est ça sur effectivement les rapports avec les conseillers, conseillères, parce qu'il y avait beaucoup de conseillères blanches. En fait, ce sont des professionnels qui sont payés, qui sont embauchés par le syndicat, qui sont soit de la base militante qui de plus en plus sont formés dans nos écoles de relations industrielles et qui deviennent des professionnels salariés, qui sont conseillers, qui négocient aussi et qui organisent, soutiennent, conseillent les élus locaux dans les syndicats locaux. Donc, Mathieu répondra sur l'organizer. C'est moi, aux États-Unis, je ne sais pas trop, là, mais je ne connais pas. Mais voilà, donc, il y a beaucoup de femmes On est dans un secteur de service, il y a beaucoup de femmes. Après, il y a les élus au niveau national. Là aussi, il y a quand même une majorité de femmes, mais c'est des blancs, blanches en général. Donc, il y avait un conseiller sur l'ensemble qui était un homme noir d'origine haïtienne, deuxième génération. On n'a pas étudié. Parce qu'on ne peut pas tout étudier. On a étudié conflit, mais là, pour voir vraiment le frottement, je ne sais pas comment vous dire ça, il aurait fallu suivre vraiment plus au jour le jour. Je pense que même des études ethnographiques sont nécessaires, là. Mais sinon, donc, voilà. Mais pour ce qui est de la conclusion, là, je ne veux pas répondre complètement. Alors, Sophie, je te laisse sur la conclusion où on aurait été dur envers l'appareil syndical.
Non, juste, moi, je trouvais extrêmement intéressant l'invitation à aussi réfléchir à l'organisation même du service. Et je pense qu'il y en a des éléments là-dessus. On a notamment un entretien avec un auxiliaire infirmier, un homme, qui raconte qu'il est... Alors lui, il n'est pas du tout concerné par la revendication salariale, mais ce qui lui importe, il soutient la grève parce que c'est la qualité même du service. Il a besoin de bons préposés et former, que ça soit un métier attirant pour que ça marche dans son service, en fait, pour l'organisation même du service. Donc je pense qu'il y a des dimensions là intéressantes à creuser, comme tu y invites. Et sur le... il nous semblait important de porter un éclairage sur la division interne du travail militant au sein des syndicats. C'est-à-dire que si on a une approche en termes d'intersectionnalité, il faut aussi la voir par rapport à ce qui se joue dans l'organisation syndicale. Et c'est vrai que, à la fois, la revendication 15$, elle a un pouvoir mobilisateur, hein. Et elle va contribuer à ce qu'un certain nombre de salariés acceptent de voter la grève, aller dans la grève. Et en même temps, à un moment donné, il a fallu que les conseillers syndicaux, conseillères syndicales et syndicaux et les présidents ou présidentes de syndicats disent, au cours de l'été, ça faisait déjà plusieurs semaines de grève, on ne va pas y arriver, on ne va pas les avoir. Effectivement, ils sont dans un huis clos de négociation. Ils négocient. D'abord, ils ont beaucoup de mal à obtenir que la négociation ait lieu. Ils reviennent à chaque fois. Et à un moment donné, il a fallu dire qu'ils n'allaient pas l'obtenir. Et là, on a des extraits d'entretien où il y a de la déception par rapport à ça, parce que le pouvoir mobilisateur fait que certains y ont cru quand même si c'était 24% d'augmentation revendiquée et que c'était à peu près sûr dès le départ qu'ils ne les obtiendraient pas. Mais voilà, il y a des tensions quand même qui s'expriment par rapport à la conduite du mouvement, en fait. Hein.
Si je peux juste ajouter une chose sur le plan théorique. On n'est pas entré dans le débat, évidemment, sur l'intersectionnalité, la consubstantialité. On aurait pu opter pour un ou l'autre. Elena Errata a présenté hier, un peu on a traité. Il y a un livre récent qui vient de publier par des Suisses où, comment il s'appelle? C'est ça, l'épinard, merci, et autres ont publié, je vous invite à lire, on a traduit des textes de Black féministes, entre autres, qui répondent aux critiques françaises, et je trouve que c'est très intéressant, c'est très nourrissant. Nous, on est nourris par les travaux des deux côtés, à la fois sur la consubstantialité et sur l'intersectionnalité, parce que elle peut, je pense, en tout cas, ça peut nourrir, et c'est dynamique pour nous, on peut y recourir pour traiter des dynamiques dans une conception qui n'est pas figée, qui n'est pas statique, qui n'est pas statistique, etc.
Bon, merci pour ces questions. Je vais essayer de répondre assez vite, même si c'est des questions passionnantes. Pour la question des conseillers syndicaux, les organisateurs, est-ce que ce sont des conseillers syndicaux? D'une certaine manière, ce sont des conseillers syndicaux qui héritent de tous les désagréments des services, à savoir que c'est leur rôle, mais à côté de ça, généralement, ce sont des travailleurs précaires non syndiqués au sein du syndicat, qui sont sur des missions courtes, qui traversent le pays, qui ont généralement des trajectoires d'anciens shop stewards dans l'industrie, par exemple à Chicago, c'est ce que j'ai pu rencontrer, ou simplement d'étudiants militants. Encore une fois, sur la question de la division du travail syndical, ce sont des populations qui sont racisées. Donc, dans la campagne Fight for 15, on a principalement des employés des fast-food noirs. Ensuite, on a des organisers latinos. Et ensuite, au-dessus, on a le syndicat, mais des gens qu'on ne voit jamais, puisque c'est l'intérêt aussi du syndicat de montrer que c'est un mouvement populaire, même s'il y a pas mal de directives derrière. Pour ce qui est des questions, alors, est-ce que c'est une intersectionnalité inversée ? Ça va aussi avec l'idée d'intersectionnalité en termes de lutte plutôt que d'identité. Alors c'est pas de moi, c'est d'Angela Davis. Oui, c'est une intersectionnalité en termes de rapports sociaux. On n'est pas dans l'interaction, on n'est pas simplement en train de parler chacun de ses spécificités, de son identité, mais on essaie de relier ces questions de spécificité et d'identité aux différents traitements institutionnels qu'on peut avoir en fonction de ces identités. Donc l'idée, c'est de faire comprendre à tout le monde qu'il y a un intérêt justement à aller dans le même sens, tout en prenant en compte ces différences que les syndicats n'ont pas fait pendant des années, en parlant de colorblind avec toutes les lois sur l'affirmative action, etc., en se disant voilà, il y a des lois qui sont contre le racisme, il n'y a plus de racisme, on n'a plus à étudier cette question. Donc là, il y a quand même pas mal de choses à voir, encore une fois, du côté du féminisme noir américain, du marxisme noir américain. Et je ne pense pas que ce soit une régression des luttes, en fait. C'est ressorti avec... la médiatisation de nombreux crimes policiers. Et je sais pas vraiment quand tu parles de régression de quoi tu veux parler, mais je pense que l'idée c'est de déconstruire à partir de populations qui subissent, en tout cas contextuellement aux États-Unis, le plus de discrimination institutionnelle. Donc là, on est sur des rapports institutionnels, on n'est pas seulement sur les interactions ou la relation de service, ça c'est encore autre chose, ça peut être lié, mais c'est quand même assez... On peut aussi distinguer les deux. Pour donner un exemple, avec cette idée d'intersectionnalité des luttes, Angela Davis, dans son dernier ouvrage, parle... Il y a de nombreux voyages Dream Defenders, on fait pas mal de voyages en Palestine, il y a beaucoup d'échanges qui ont été faits, notamment pendant les émeutes de Ferguson, où des Palestiniens ont donné des conseils aux manifestants pour se protéger contre les gaz lacrymogènes, etc., en mettant du lait sur les yeux. C'est un exemple qu'elle donne beaucoup. À côté de ça, on a pu voir aussi des gens qui étaient à Ferguson, qui n'étaient pas du tout politisés et qui étaient même parfois mis de côté par des grandes associations nationales antiracistes. Je parle principalement, je développe un peu plus justement les relations entre les grands groupes historiques antiracistes aux États-Unis qui sont passés de la revendication, de la dénonciation des violences faites à certaines populations et notamment aux populations noires, vers une politique de respectabilité en promouvant l'éducation, en dénonçant les textes, en étant sur les mêmes clichés en fait qui étaient auparavant utilisés par des blancs, mais en les faisant dire par des noirs pour avoir plus de légitimité. Mais donc oui, ce que je disais sur Ferguson, c'est qu'on a on a pu voir des personnes qui participaient pour la première fois à des manifestations suite aux crimes policiers qui s'y étaient déroulés, donc dans le Missouri, et qui ont participé à d'autres mouvements. Je pense notamment au mouvement NoDAPL autour du pipeline géant construit dans le Dakota du Nord. Et donc je pense que derrière, c'est peut-être l'idée qu'il y ait une peur d'un entre-soi ou quelque chose comme ça, comme avec les polémiques qu'il peut y avoir en France autour, quoi qu'il ne devrait pas être, mais des polémiques autour de la question de la non-mixité, que ce soit en termes de genre ou de couleur, c'est simplement qu'il y a une déconstruction. Qu'on le veuille ou non, il y a des endroits où il y a des non-mixités, ça ne sera pas dit comme tel, mais où on se retrouve qu'entre blancs, quoi, il y a une distinction qui est faite. Donc, d'une certaine manière, la déconstruction doit se faire aussi entre populations qui sont racisés, parce qu'encore une fois, c'est pas une question de dire qu'un groupe est homogène nécessairement, mais que ces questions soient échangées entre des gens qui ont les mêmes expériences pour ensuite être éventuellement débattues, mais pas nécessairement de la même manière avec l'ensemble d'une population. Donc oui, c'est une question de convergence des luttes, en fait. Derrière, je disais tout à l'heure, capitalisme, patriarcat et impérialisme, ou alors colonialisme, voilà, c'est des choses qui font sens pour tout le monde et auxquelles tout le monde a intérêt, dans ces luttes en tout cas. Je conseillerais la lecture d'un ouvrage sur Black Lives Matter qui a été écrit par Kianga Yamata-Taylor, qui est professeur à Princeton et qui justement montre bien que derrière, ça ne veut pas dire derrière ça qu'il y a les populations blanches. Il n'y a pas une polarisation autour d'un côté de très riche et de l'autre de très pauvre, et qui serait nécessairement blanche et noire, puisque en nombre, beaucoup plus de blancs subissent la pauvreté aux États-Unis, mais derrière le système à la fois éducatif, judiciaire, etc., est beaucoup plus... ouais, beaucoup plus prégnant, et pour les populations noires, beaucoup plus punitive. Voilà.
Merci. Donc, bien maintenant, on va prendre les questions de la salle. Donc, Elena. Après.
Merci. quelques questions, quelques commentaires par rapport à la communication de Louise Bovin et de Sophie Bérou. Je pense que c'est très, très important que vous avez pu rapporter sur l'immobilisation dans un secteur où c'est tellement peu les nombres de mobilisations, des grèves, etc. Et j'ai trouvé particulièrement intéressant cette idée qu'on ne peut pas portionner les prendre soin, les care, etc. Et que donc, c'est très difficile de diminuer 45 minutes dans l'ensemble des choses qu'ils doivent faire. Et là, je voulais tout de suite dire que quand Jean-Pierre Durand a dit que faire le lit fait pas partie de la relation de service, moi, j'ai des doutes, parce que je crois que c'est difficile de portionner les care, les prendre soin, et que ça contribue au bien-être de la personne âgée de faire le lit. Et que donc, c'est un tout, et que c'est tout. Si on divise, si on prend quelques trucs comme étant non, je pense que c'est difficile de dissocier les différents éléments, les différentes dimensions, comme a dit Angelo en prenant 5 dimensions du care, parce que là, c'est une dimension plus matérielle. Mais comment on va pouvoir dissocier le matériel des autres dimensions du prendre soin? Par rapport à Mathieu, il n'a pas tellement parlé de la division sexuelle du travail, c'est-à-dire le fait que dans les services, il y a quand même une majorité des femmes. Est-ce qu'il peut nous dire quelque chose de comment il a vu ça? Parce qu'en fait, dans les photos, c'est remarquable, il n'y a que des hommes pratiquement dans toutes les photos que tu nous as montrées. Et en fait, le seul, évidemment, comme c'est des syndicalistes, on peut imaginer que les syndicalistes sont, les dirigeants syndicaux sont des hommes, mais c'est particulièrement intéressant. Une photo où il y a beaucoup, beaucoup d'hommes debout et une femme, apparemment, par la coiffure, qui est de dos, et c'est la seule fois où j'ai vu une femme de manière très claire. Donc, s'il peut dire quelque chose là-dessus, ça serait bien. Et Angelo, bon, j'ai vu que c'est que tu avais mis dans l'article sur les care comme les 5 dimensions du care, tu nous as mis comme les 5 dimensions des services, et je pense que c'est juste, je crois que ça colle bien, mais par rapport à la confiance, est-ce que tu peux dire quelque chose, parce que tu n'as pas eu le temps de dire, sur confiance et services, est-ce qu'on peut dire sur la confiance, sur les services et confiance, tout ce que tu as dit sur care et confiance, ou est-ce que ce n'est pas transposable comme tu l'as fait avec les 5 dimensions du care? Et finalement, pour terminer avec Jean-Pierre, en dehors de la question que j'ai déjà évoquée, évidemment, il y a toute la question de âge, orientation sexuelle, handicap, etc., sur lesquels on n'en a pas parlé dans les différentes exposés. Mais je crois que c'est ce que j'avais posé hier comme étant l'intersectionnalité à géométrie variable, c'est-à-dire c'est toute la discussion si on utilise uniquement les dimensions transversales comme veut Daniel, race, classe et genre, ou si on intègre d'autres dimensions. Je pense que la sexualité, par exemple, est comprise dans la dimension genre, et je crois que c'est difficile de dissocier. Mais c'est une discussion qui, à mon avis, est complètement ouverte dans la discussion sur intersection et consubstantialité. Je termine pour dire que j'ai eu l'impression qu'à un moment, tu disais qu'il fallait quand même prendre une dimension, soit genre, soit âge, etc., en soi, c'est-à-dire séparément des autres. Et justement, je crois que ce qu'il faut, c'est de ne pas séparer, de ne pas dissocier, parce que justement, la non-hiérarchisation, c'est dire... bon, je crois que Daniel Kerguat dit très bien dans son article épistémologique de 84... que dans le collectif Les Sexes du Travail, qu'un rapport social n'est pas plus ou moins vivant qu'un autre, et que soit il est, soit il n'est pas. Et donc, on ne peut pas séparer le genre de la classe de la race, et que donc, c'est un peu... politique, parce que on voit parfaitement que encore aujourd'hui, quand on discute par exemple la consubstantialité ou l'intersectionnalité au Brésil, il y a des marxistes orthodoxes qui disent non, d'abord la classe, c'est plus important quand même, c'est plus déterminant et c'est plus prééminent par rapport à à genre ou par rapport à race. Et c'est tout les débats sur contradictions principales et contradictions secondaires, où on va dire d'abord on va faire la révolution socialiste, la lutte des classes, etc. Et après, on verra la question des femmes. Non, non, je ne dis pas que tu dis ça, mais j'ai eu l'impression qu'à un moment tu disais quand même qu'il fallait prendre quelques trucs en soi. Hiérarchiser selon les objets. C'est ça.
Moi, je vais juste faire une remarque, pas du tout sur vos papiers, mais juste sur la remarque de Jean-Pierre. En fait, dans l'appel à communication, si vous l'aviez lu, il y avait quatre axes et trois des axes. Vous avez répondu à trois des axes qu'on avait annoncés. Donc, voilà, la commande est respectée. Et le quatrième axe, c'était back-office. Et on voulait voir justement les liens entre fonds et back-office, etc. Et ce qui se joue en termes d'organisation. Et on n'a eu aucune réponse. On n'a eu aucune réponse sur cette question-là. On était très déçus parce que c'était un point qu'on voulait vraiment développer. Mais il n'y a pas de recherche là-dessus. Enfin, si, il y a peut-être des recherches, mais elles ne sont pas pensées dans cette perspective service, quoi. Elles sont séparées et c'est plutôt peut-être dans des travaux sur l'organisation, etc. Mais c'est pas relié. Alors que les gens qui travaillent en back office dans une cuisine, eh ben, ils sont dépendants de combien de clients affluent à un moment ou à un autre, à quel rythme, etc. Bon, enfin, etc. Et donc, il y a des liens évidents. Mais vous voyez que les recherches n'ont pas porté ne portent pas là-dessus, ou du moins pas explicitement. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Plein d'autres choses, mais je laisse la parole aux autres.
Moi, je voulais plus interroger l'objet syndicalisme, c'est dans le thème de la matinée, et notamment avec l'idée principale, c'est que je pense qu'il y a une difficulté, un obstacle à ce que les groupes les plus opprimés portent la question de l'intérêt général. Quand vous approchez en fait vos objets de recherche à travers des luttes spécifiques, il y a un petit aspect corpo, mais qui est en plus amplifié par le syndicalisme américain, hein, ou soit par la négociation par entreprise, soit par le fait qu'on est sur des luttes, sur des grands magasins, et des luttes assez spécifiques. Or, je pense que dans ces luttes, il y a quelque part une remise en cause du rapport salarial et qui dépasse donc largement une simple situation et qui va poser en fait le syndicalisme comme quelque part consubstantiel par nature, par substance, hein, si je peux me permettre. Et donc les groupes les plus opprimés se retrouvent en grande difficulté dans cette contradiction-là, parce qu'ils ne peuvent pas porter cet intérêt général, alors même qu'ils sont au centre des luttes que vous présentez. Et voilà, donc je pense que quand souvent on ramène le syndicalisme à la négociation, on manque en fait cette dimension du syndicalisme, et donc du coup, on ne peut pas aller sur cette consubstantialité des rapports sociaux.
On n'a pas compris la question. Ni l'ordre.
C'est pas une question, c'est une remarque.
C'est pas une question, c'est une remarque.
Ah, ok, c'est bon.
Mais qu'on peut contrer.
Alors, si vous pouvez préciser peut-être quelque chose.
Je pense que. Oui. Je pense que les groupes les plus opprimés, les groupes opprimés, ne peuvent pas porter l'intérêt général. Et dans les luttes, il y a toujours une question d'intérêt général, que ce soit en termes de dignité des salariés, que ce soit en termes de salaire minimum, qui dépasse largement la relation, presque, ou la situation, qui peut être abordée sous un angle corporatiste, hein, de défendre le salaire de salariés dans une situation concrète. Et cette dimension-là du syndicalisme, qui fait partie du syndicalisme, disparaît un peu quand on regarde simplement des luttes concrètes. Et je pense qu'il faut du coup prendre un peu du recul pour comprendre en fait les mécanismes consubstantiels. Bon, c'est un peu abstrait, je reconnais.
D'autres questions? Alors peut-être qu'on va... est-ce que quelqu'un veut réagir sur cette question, cette remarque?
Je ne sais pas si j'ai bien compris, Louis-Marie, mais il me semble que ces dimensions-là, nous, on essaye de la saisir en disant il y a une forme de politisation qui se joue, par exemple, sur les piquets de grève, dans la grève, où il y avait ces questions d'enjeux de reconnaissance, d'affirmation de la dignité du travail. Il y a des travailleuses qui, et aussi dans les entretiens, disaient mais nos métiers ne sont pas assez reconnus, ne sont pas assez valorisés socialement. Donc, une dimension beaucoup plus large qui est en jeu quand les travailleuses se mettent en grève. Après, on a une conduite du mouvement par les syndicats qui les oblige à le faire rentrer dans des cadres bien établis, notamment celui de la négo, pour essayer d'obtenir quelque chose, en fait. Hein. Donc, il y a une tension, là, je pense, entre la conduite de la grève par les syndicats, qui doivent rentrer dans ce cadre-là, essayer d'obtenir des choses, et tout ce qui affleure dans le moment de la grève, comme, qui ouvre un espace un peu différent, en fait. Hein. Et il me semble que, du coup, ces catégories de travailleurs sont porteurs d'un certain nombre d'enjeux par rapport à ce dont on parle, cette intersectionnalité des rapports de domination. Ils sont très, très porteurs de ça, et du coup, de l'intérêt général. Hein. Je ne sais pas si ça répond un peu ou pas.
Oui, je voulais répondre à la question sur la présence des femmes. Oui, c'est une large majorité pour ce qui est de la journée Fight for 15 qui s'était déroulée dans l'ancienne capitale des États confédérés, donc à Richmond. Je dirais qu'il y avait 70 à 80% de femmes noires. Sur les photos, je pense que vous êtes un peu sévère parce qu'il y en a plus que vous le pensez.
Ouais,
il y en a quand même pas mal. Mais par contre, ça soulève un point intéressant et je pensais l'aborder. Mais aujourd'hui, c'est qu'une hypothèse. C'est-à-dire, c'est aussi ce que je me suis dit parmi les figures des mobilisations. D'un côté, je vous ai parlé du National Organizing Committee qui est composé à peu près à 80% de femmes aussi. Et généralement, on voit toujours les grandes figures nationales qui sont des hommes. C'est pas un mouvement où on apprend aux gens à déconstruire le genre, mais après, ça renvoie à pas mal de choses qui ont été développées par des féministes noires américaines, notamment ce dont j'ai pu discuter, en tout cas, quand j'ai échangé sur ces sujets avec des leaders femmes du mouvement, c'est que généralement, quand on est une femme noire, il y a beaucoup de symboles aux États-Unis autour des noirs, hommes, femmes, et la femme noire, ce qu'on m'a dit, c'est une femme loud, c'est-à-dire qu'elle va être... on va dire pas revendiquer, mais à chaque fois, crier, parler fort, être vulgaire, se mettre en avant, mais pour rien, pour des mauvaises raisons. Et donc, je pense qu'il y a des choses, ça rejoint la question de la politique de respectabilité. C'est pour ça que je pense que ces groupes comme Dream Defenders Black Youth Project sont intéressants dans le sens où ils déconstruisent, ils font porter à des hommes des t-shirts qui disent, voilà, faut endosser le regard, en fait, d'une féministe noire et queer. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de déconstruire tout ça et de se mettre à la place pour comprendre les processus qu'il y a derrière et ce qui permet aussi des formes d'intériorisation et d'invisibilisation de soi. Voilà. Mais c'est qu'une hypothèse. Là, c'est vraiment deux, trois entretiens que j'ai pu faire, mais je peux pas être catégorique sur ça, mais ça, je pense que ça doit jouer.